journal est présenté par Camille Magnard.
Bonjour. Élection législative aujourd'hui dans une Hongrie confrontée à une corruption galopante. Le Premier ministre Viktor Orban et son parti le Fidesz devraient pourtant conserver une solide majorité au Parlement. Le spectre d'une attaque terroriste rapidement écarté à Münster en Allemagne où hier un conducteur de camionnette a tué deux personnes en fonçant sur la foule. L'enquête dessine le profil d'un homme fragile et suicidaire, nous le verrons. Des terroristes neutralisés par centaines en Turquie, Ankara choisit les mots pour dissimuler une répression accrue des milieux pro-kurdes. Et puis, le choix des mots et de l'intervieweur également pour Emmanuel Macron. Le chef de l'État se rendra jeudi sur le plateau du 13h de TF1 chez Jean-Pierre Pernaut, donc pour sa première grande télé depuis qu'a débuté ce printemps social particulièrement tendu. 8 millions de Hongrois appelés aux urnes ce dimanche. Le vote a commencé pour renouveler le Parlement de ce pays d'Europe centrale dans lequel le parti du Premier ministre Viktor Orban détient jusque-là la majorité des deux tiers. La ligne politique du Fidesz, ligne très à droite en forme de défi à l'Union européenne et de rejet brutal de toute immigration. Cette politique devrait sans surprise permettre à Viktor Orban de rester au pouvoir. Mais l'opposition de gauche et d'extrême droite en Hongrie espère bien priver le Premier ministre de plusieurs sièges de députés, car 8 années de Viktor Orban au pouvoir en Hongrie ont vu la corruption atteindre des niveaux particulièrement inquiétants, Marie-Pierre Véraud.
Il y a quelques années à peine, la Hongrie faisait mieux que l'Italie, la Bulgarie, la Roumanie ou encore la Grèce en matière de lutte contre la corruption. Mais patatras, tout s'est écroulé. Aujourd'hui, seule la Bulgarie est classée derrière et la nature de la corruption en Hongrie n'incite guère à l'optimisme, Gabriel Anag de Transparency International.
La qualité de la corruption a vraiment changé après 2010 parce que comme tout l'État est devenu vraiment centralisé après 2010, même la corruption est devenue centralisée. La petite corruption, quand on paye pour la police ou je ne sais pas, c'est vraiment diminué, presque disparu. Mais la grande corruption et la corruption centralisée est devenue vraiment trop fort. Et un autre phénomène est que la corruption est devenue légalisée dans plusieurs cas.
Les exemples abondent. Trafic de permis de résidence, nationalisation des banques ou des licences de tabac revendues ensuite aux amis du Premier ministre. Ces clubs de sport qui figurent en queue de classement, mais bénéficient des largesses du pouvoir en échange de la loyauté de leurs propriétaires. Et surtout, ces marchés publics, souvent sur fonds européens, remportés systématiquement par les proches de Viktor Orban. L'éclairage de plusieurs localités a ainsi été entièrement refait par une société appartenant à son gendre, rappelle le journaliste Andras Kossa, auteur d'un ouvrage Orban, l'homme du chaos.
Miraculeusement, son gendre a remporté la plupart des contrats. Et il s'est avéré qu'il était beaucoup plus cher que les prix du marché et que le service rendu était en deçà des attentes. Cela veut dire que la plupart des rues dans ces villes sont plus sombres qu'avant. C'est le problème avec ce capitalisme des copains en Hongrie ou avec la corruption. Ce n'est pas juste voler de l'argent ou détourner les fonds européens dans des contrats qui sont hors de prix, c'est que même la qualité est déplorable.
L'Europe a alloué à la Hongrie près de 30 milliards d'euros pour la période 2014-2020. Transparency International estime que 90% des projets financés par les fonds européens sont affectés par la corruption.
Un reportage de Marie-Pierre Véraud à Budapest où les premiers résultats fiables de ces élections législatives sont attendus tard dans la soirée. Il incarne à lui seul les succès et la déchéance de toute une gauche sud-américaine. L'ex-président brésilien Lula a rejoint dans la nuit la prison de Curitiba où il doit purger une peine de 12 ans pour corruption. Hier soir, des milliers de partisans des différentes formations de la gauche brésilienne se sont rassemblés tout au long du parcours de Lula jusqu'à la prison pour dénoncer une condamnation politique. Selon eux, Lula était le favori de l'élection présidentielle prévue en octobre au Brésil. Il dit avoir accepté de se rendre à la justice pour faire reconnaître in fine son innocence. En Allemagne, on y voit un peu plus clair ce matin sur ce qui s'est passé hier après-midi dans le centre historique de Münster. Cette camionnette qui a foncé sur la foule d'une terrasse de café faisant 2 morts et plusieurs blessés graves. Le conducteur du véhicule s'est ensuite suicidé avec une arme à feu. La crainte d'un attentat terroriste a rapidement été battue en brèche par les premiers éléments de l'enquête qui révèlent les failles psychologiques de cet homme de 48 ans. On fait le point avec notre correspondant en Allemagne, Pascal Thibault.
Les autorités excluent la thèse d'un attentat terroriste islamiste. L'auteur de l'attaque, commis avec une voiture bélier dans la vieille ville de Münster, était un Allemand. Différents médias le présentent comme un homme d'une quarantaine d'années souffrant de troubles psychologiques. L'homme a agi seul, fonçant avec son véhicule à travers le centre-ville de Münster pour terminer sa course devant un café-restaurant connu où de nombreuses personnes se trouvaient en terrasse, profitant d'un après-midi de printemps ensoleillé. Deux personnes, deux employés du restaurant, ont été tuées. L'auteur de l'attaque s'est donné la mort dans la foulée avec une arme à feu. Une vingtaine de personnes ont été blessées, six d'entre elles se trouvaient dans un état grave. Si les autorités semblent exclure une piste islamiste à laquelle beaucoup ont d'abord songé, le profil et les motivations de l'auteur de l'attaque restent à éclaircir. Son domicile à Münster même a fait l'objet d'une perquisition hier soir.
Pascal Thibault, le régime de Damas et son allié russe ont-ils utilisé des bombes chimiques sur les derniers civils de la Ghouta orientale? La question est posée à nouveau après ces témoignages récoltés par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. L'ONG fait état d'au moins 70 morts hier autour d'un hôpital de la ville de Douma. De nombreuses victimes présenteraient des traces de suffocation évoquant les effets d'une bombe au chlore. Washington parle d'informations qui seraient terrifiantes si elles venaient à être confirmées. Tout aussi alarmante, la répression des groupes kurdes par l'armée turque. On la sait particulièrement sanglante autour d'Afrin dans le nord de la Syrie, mais elle s'est également renforcée ces derniers jours en Irak et à l'intérieur même des frontières de la Turquie, avec à chaque fois un choix savant des mots employés par Ankara pour justifier ces répressions, Alexandre Billette.
Des terroristes neutralisés, c'est l'expression consacrée par l'armée turque qui diffuse chaque jour le nombre de miliciens kurdes qui auraient été tués, blessés ou encore, mais moins fréquemment, arrêtés dans la région d'Afrin depuis le début de l'opération militaire. Il y aurait eu ainsi précisément 3991 combattants neutralisés jusqu'à aujourd'hui. Mais les opérations de l'armée turque ne s'arrêtent pas à Afrin. Recep Tayyip Erdogan le répète sans cesse. La Turquie veut nettoyer, dit-il, les régions frontalières des milices kurdes. Nous irons jusqu'en Irak, avait même dit le président turc. Et l'armée poursuit ses opérations non seulement en Syrie, mais aussi justement en Irak et en Turquie même. Et 108 combattants auraient donc été neutralisés depuis une semaine, suite notamment à des frappes de l'aviation turque au nord de l'Irak, dans une région montagneuse qui abrite des camps du PKK. Et depuis la rupture du cessez-le-feu entre le PKK et Ankara, en 2015, les opérations de ce genre se produisent régulièrement. Mais avec l'opération à Afrin, elles prennent une autre teneur. Le pouvoir turc veut ainsi réaffirmer qu'il n'entend pas se laisser dicter la marche à suivre en frappant à l'intérieur comme à l'extérieur de son territoire.
Correspondance à Istanbul d'Alexandre Billette. 9h08 sur France Culture, l'actualité en France, c'est le deuxième round aujourd'hui et demain de la grève en pointillé à la SNCF. Un TGV sur 5 roule aujourd'hui et demain, un TER sur 3. Dans une interview au parisien.fr, le Premier ministre Édouard Philippe redit sa détermination à mener la réforme ferroviaire jusqu'au bout. L'examen du projet de loi débute demain à l'Assemblée alors que les négociations avec les syndicats, on le sait, sont dans l'impasse. Le chef de l'État, lui, s'invite jeudi prochain au journal de 13h de TF1. Ce sera sa première adresse aux Français dans ce contexte social particulièrement tendu. Il a donc choisi le journal de Jean-Pierre Pernaut, un choix mûrement réfléchi dans une communication de crise qui ne dit surtout pas son nom, Yael Goz.
Ni panique, ni précipitation. Officiellement, l'accord passé avec TF1 remonte à il y a 3 semaines et n'a rien à voir avec une quelconque reprise en main sous pression de la communication gouvernementale. Emmanuel Macron, qui était déjà sur TF1 mi-octobre, veut donc reparler, mais pas pour faire son bilan. Non, l'interview se veut prospective. À l'automne, il avait travaillé sa dimension régalienne de chef d'État. Jeudi prochain, le président cherchera à cranter son horizontalité, à corriger ses points faibles, jugés trop éloignés des réalités locales, pas assez attentif aux malaise dans les campagnes, à l'hôpital, à l'école ou chez les retraités. S'y ajoute le contexte brûlant des mouvements sociaux, l'enlisement à la SNCF, dire « ne vous inquiétez pas » ne suffit plus et ces mots seront scrutés à la loupe par des syndicats qui veulent négocier directement avec lui. Quant au choix de Jean-Pierre Pernaut, c'est celui d'un journal populaire, dit l'Élysée, rendez-vous favori des seniors, cible idéale donc pour évoquer les sujets de vie quotidienne. TF1, choisi par l'Élysée, mais sans y associer France Télévisions, c'est désormais une habitude. La deuxième fois en l'espace de 6 mois.
Il n'y aura pas d'évacuation par la force du campus de l'université Paris 1 Tolbiac. Le tribunal administratif de Paris rejette une requête du syndicat étudiant de droite, l'UNI, qui demandait donc que les grévistes qui occupent les amphis soient délogés manu militari. 6 personnes étaient hier en garde à vue soupçonnées d'avoir participé à des violences contre les grévistes dans la nuit de vendredi à samedi. La météo de ce dimanche, enfin marquée par la douceur des températures entre 10 degrés sur Tarbes et Cherbourg déjà ce matin et 16 à Paris cet après-midi. Ça va encore s'accentuer. On sera autour de 20 degrés sur la capitale, la région lyonnaise et le Grand Est. Attention aux averses sur la façade ouest cet après-midi.